Vous écoutez le Serment d'Hippocrate, un podcast où l'on parle des choses qui affectent notre santé mais ne se trouvent pas en pharmacie. Ici, on s'intéresse à l'alimentation, au sommeil, à la méditation ou à l'activité physique. Tout ce qui a un impact profond sur notre santé est bon à découvrir, étudier et discuter. On y trouve des médecins, des professionnels de la santé, des experts, mais aussi monsieur et madame tout le monde, parce que la santé est souvent une aventure personnelle. Bienvenue au Serment d'Hippocrate. Aujourd'hui, je suis avec Anaïs Bégaudeau, esthéticienne à proximité de Cahors. Je cherchais des témoignages sur l'endométriose, parce que c'est un sujet dont j'avais envie de parler. Et j'ai découvert l'histoire d'Anaïs, qui m'a un peu touché. Et je lui ai demandé si elle voulait bien venir sur le podcast pour en parler. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Alors, je voudrais qu'on commence avec une étape assez simple. Déjà, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement parce que je suis sûr que je ne t'ai pas fait honneur avec ma description.
Si, ça va. Donc, bonjour. Je m'appelle Anaïs. Donc, j'ai 28 ans. Effectivement, je suis bien esthéticienne et je suis atteinte de l'endométriose qui m'a été diagnostiquée donc, il y a maintenant 2 ans.
D'accord.
Juste 2 ans.
Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est d'ailleurs l'endométriose ? Parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément au courant.
L'endométriose, donc, c'est une maladie qui n'est pas trop connue. On commence à en parler un petit peu depuis quelques temps. C'est une maladie du tissu utérin. Donc, qui se situe au niveau de l'utérus. Au moment des règles, ça provoque pas mal de douleurs. C'est généralement des douleurs qui sont assez handicapantes. Ça provoque aussi des douleurs au moment des rapports. Ça provoque une infertilité généralement dans la plupart des cas. On va dire médical, ça provoque des gros saignements internes et ce qu'on appelle des nodules au niveau interne. Des nodules, ce sont des petites excroissances, on va dire, internes comme des je ne vais pas trouver le mot.
je peux peut-être donner ce que moi j'en ai compris. Il faut un peu voir ça comme le développement d'un cancer, mais c'est un peu différent. C'est vrai que ce n'est pas catégorisé comme une cellule cancéreuse. Mais sinon, dans le principe, c'est un peu la même chose. Je ferais peut-être taper sur les doigts pour avoir dit ça. Mais bon.
Non, c'est un peu ça, effectivement. C'est des petites tumeurs, mais qui ne sont pas cancéreuses. C'est des petites tumeurs bénignes comme des petites poches de sang qui sont au niveau de l'utérus, qui ne sont pas cancéreuses, mais qui sont très handicapantes puisqu'elles provoquent d'énormes douleurs.
D'accord. Donc, tu as dit que tu as été diagnostiquée il y a 2 ans. Tu m'as déjà raconté ton histoire et je sais que ça a commencé il y a beaucoup plus longtemps que ça. Est-ce qu'on peut démarrer un peu au début ?
Donc, au début, effectivement, ça a commencé au début de mes règles. J'ai eu mes règles à 11 ans. Et effectivement, dès le départ, j'ai toujours eu des règles très douloureuses. Dès le début, quand j'avais mes règles, je me pliais de douleur. Et effectivement, comme toute personne atteinte d'endométriose, à l'époque, quand on se plaignait de règles douloureuses, dans toutes les familles, on partait du principe qu'il y avait des personnes qui avaient des douleurs et d'autres personnes qui en avaient moins. Et dans mon cas, effectivement, ma grand-mère était une personne qui avait énormément de douleurs. Et donc, pour elle, c'était normal et c'était familial. Et donc, on est parti de ce principe que oui, effectivement, mes douleurs, c'était des douleurs normales. Donc, j'avais très mal, mais voilà. Je suis allée voir mon médecin traitant, comme tout le monde. Et puis, j'ai quand même pris la pilule assez tôt. Et puis, c'était censé atténuer mes douleurs.
Et alors
Est-ce que ça a été le cas ? Ça n'a pas été forcément le cas, non. Ce qui a effectivement atténué mes douleurs, ça a été de prendre des pilules qui arrêtent les règles, en particulier tout ce qui était pilules avec œstrogène qu'on prend en continu et patch contraceptif que j'ai pu prendre quand j'étais quasiment majeure. Puisqu'avant ça, on ne donne que des pilules microdosées qui ne font strictement rien contre les douleurs d'endométriose.
C'est important, peut-être, je pense, à ce moment-là, de préciser que justement, ces pilules qui arrêtent les règles, leur rôle, c'est avant tout en fait, de stabiliser complètement la production hormonale, c'est-à-dire qu'en gros, elle reste toujours à un niveau élevé. Encore une fois, ce n'est pas spécialisé du tout là-dedans, mais je récite ce que j'ai retenu. Mais et du coup, l'idée, c'est que bah, en créant en fait un niveau d'œstrogène, je pense, et il y a peut-être d'autres hormones impliquées, mais je ne saurais pas le dire. Mais en gros, l'idée, c'est que ça crée un niveau hormonal qui est perpétuellement élevé. Alors que
C'est
pourtant,
ça.
là où c'est problématique, c'est que le corps de la femme et le corps de l'homme aussi, parce que l'homme aussi a des variations hormonales, peut-être juste pas aussi marquées, mais en fait, on a des cycles, et c'est normal, et c'est important, et c'est comme ça que le corps est censé fonctionner. Donc déjà, si on en vient à devoir supprimer ça, on est potentiellement en train de provoquer d'autres problèmes, même si on en résout un autre.
Et effectivement, dans le cas de l'endométriose, c'est la chute hormonale qui provoque les douleurs. C'est la chute hormonale avant les règles, en fait, qui provoque ces énormes douleurs-là. Même si, effectivement, le fait de maintenir le taux hormonal haut ne règle pas tout.
Ouais.
Ça atténue, mais ça ne règle pas tout.
Parce que du coup, ton cycle a quand même un peu lieu, en fait. C'est-à-dire que la variation hormonale de ton corps a quand même lieu. C'est juste que à côté, tu apportes en fait une œstrogène exogène.
C'est-à-dire que voilà, elle est très minimisée. Donc effectivement, voilà. Mais c'est ça, voilà, c'est masqué, on va dire.
Ouais,
c'est masqué, mais comme l'ovulation n'a pas lieu, effectivement, tout est vraiment minimisé.
Mmh.
Voilà.
Et donc t'as vécu avec ça pendant combien d'années?
Donc, pendant, j'ai vécu avec on va dire, les contraceptifs qui bloquent mes cycles pendant 3 ans, puisque après, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte sous contraceptif, avec un patch contraceptif, pour la petite histoire, qui est tombée dans la piscine en plein été.
Attends, tu peux juste me dire ce que c'est, parce que le patch contraceptif, pour le coup, je ne sais pas exactement ce que c'est.
Donc, le patch contraceptif, moi, j'avais ça. Donc, c'est un patch qu'on colle. Alors, moi, je le collais sur la fesse, mais on peut le coller sur la fesse, sur la cuisse. On peut le coller un peu où on veut. Je crois qu'il y en a même qui le collent sur le bras.
Okay.
Ça se change toutes les semaines. Et moi, je le collais en continu. Donc, ça me bloquait les cycles et on le change tous les 7 jours.
Ok. Voilà. Okay. J'ai jamais vu cela, mais enfin, je sais que ça existe. Mais...
Voilà. Je crois que ça s'appelle le MLA ou quelque chose comme ça.
Voilà. Avant juste qu'on rentre sur ta grossesse, hein, il y a un truc que tu m'avais raconté et je pense quelque part ça m'avait un peu touché parce que j'ai trouvé ça un peu triste, mais tu m'expliquais que adolescente déjà, lorsque tu as voulu avoir, bien avant d'avoir des enfants, hein, de tomber enceinte, donc tes premiers rapports avaient été très douloureux, c'est ça?
Oui. Ah oui, effectivement.
C'était déjà avoir des rapports, c'était pas quelque chose de facile.
Ah oui, alors effectivement, même aujourd'hui, c'est toujours très très compliqué. C'est effectivement un des piliers, on va dire, de l'endométriose. Le plus gros souci qui est effectivement le plus compliqué à régler par les médecins, c'est les douleurs pendant les rapports. Quand on est atteint d'endométriose, il y a des choses que les médecins encore n'arrivent pas à expliquer et on ne sait toujours pas pourquoi. Effectivement, c'est peut-être les nodules, mais même en les enlevant, des fois, ça fonctionne pas quand même. On a mal et on ne sait pas pourquoi. Alors, il faut savoir qu'il y a des positions qu'on ne peut même pas faire.
D'accord.
Et on ne sait pas pourquoi. Effectivement, moi, pendant mes premiers rapports, alors pas forcément la première fois, mais au fur et à mesure, il m'est arrivé quand même, et je me rappelle, c'était avec mon deuxième petit copain, pas le premier, parce que bon, ça n'a pas duré assez longtemps. Mais avec le deuxième, effectivement, avec qui je suis restée quand même assez longtemps, il m'est arrivé de pleurer pendant les rapports parce que c'était tellement douloureux pour moi que ce n'était plus possible, quoi.
Ouais, et du coup, ça doit avoir un impact assez important sur ta sexualité et surtout le développement de ta sexualité, parce que si ça t'arrive quand t'es ado, en plus, c'est le moment où t'es vraiment en train de te découvrir, en fait.
C'est ça. Ça a un impact très, très particulier. C'est très compliqué. Et même maintenant, bon, voilà, je suis mariée, je suis avec mon mari depuis maintenant 12 ans. C'est très compliqué, même à l'heure actuelle, parce que y a des moments où je culpabilise parce que je sais pas comment expliquer le ressenti qu'on peut avoir dans ces moments-là, mais on a mal, donc on n'a pas envie. Mais le fait de pas avoir envie, lui le ressent comme si il avait fait quelque chose de mal, alors qu'en fait c'est nous-mêmes qui nous ressentons comme, enfin, on le ressent comme si on n'était pas quelqu'un de normal, quoi.
Ouais, et puis c'est un peu le syndrome. C'est un peu le principe du chien de Pavlov, c'est-à-dire que tu finis par associer, enfin, tu as des réactions qui s'associent en fait avec certains signaux, c'est-à-dire que tu finis, enfin, je sais pas si c'est une bonne analogie, et puis encore une fois, il me fera peut-être taper sur les doigts, mais enfin, j'imagine que c'est parce que ça fait mal, j'en ai un peu peur, et du coup, le simple fait d'y penser, bah, ça me met un peu dans un état d'angoisse. Et du coup, parce que je suis dans l'état d'angoisse, bah, du coup, j'ai pas envie. Et du coup, tu te dis, bah, c'est ma faute, mais c'est juste qu'en fait, c'est pas forcément que t'as pas envie, c'est que dès que t'y penses, bah, ça peut, du coup, te perturber. Et enfin, bah, après, sur une échelle vraiment autre, mais enfin, même dans mon vécu perso, lorsque j'ai déjà été avec des gens avec qui les rapports étaient un peu compliqués, tu vois, et bah, rien que ça peut te suffire, en fait. Tu vois, à finalement avoir moins envie parce que dès que tu y penses, tu te dis oh ouais, mais c'est. Il y a toutes sortes de contraintes et tout. Et du coup, finalement, tu as moins envie. Mais c'est juste parce que dès que tu y penses, tu commences à mettre trop d'idées derrière le truc.
C'est exactement ça. Et ça va même encore plus loin. C'est que du coup, la moindre petite remarque, la moindre petite réflexion des personnes autour de nous qui nous disent ah ouais, mais. Par exemple, moi, j'ai déjà eu la réflexion de « mais vous êtes jeune, si vous faites ça que… » Par exemple, vous faites ça qu'une fois par semaine, mais ce n'est pas normal, c'est qu'il y a un problème dans votre couple.
Merci
mais même, même ça, franchement, c'est quelque chose qui limite vous ronge de l'intérieur. Franchement, c'est des moments où j'avais l'impression d'être une petite souris et d'avoir envie de me mettre dans un trou bien profond.
Ouais, non, ça ne doit pas être facile à vivre.
C'est très compliqué.
Mais malgré tout, tu es tombée enceinte, du coup.
Alors, effectivement, malgré tout, je suis tombée enceinte. Et à ce moment-là, donc j'avais 19 ans. Ça a été difficile de prendre la décision parce que on avait 19 ans tous les deux. On avait le même âge. Donc, pour nous, on ne savait pas trop si à 19 ans, on avait envie d'être parents, même si ça faisait quand même quelques années qu'on était ensemble. On a décidé de. C'était une, on savait pas encore le sexe, mais bon, maintenant on le sait, c'est une fille. On a décidé de la garder. Et en fait, heureusement, puisqu'on savait pas que, effectivement, j'étais atteinte d'endométriose et que on savait pas tout ce qui allait arriver derrière. Effectivement, donc on l'a gardée. On a eu une très belle petite fille. Ça a été très compliqué. Mais c'était quelque
la grossesse, chose de... tu veux dire? La grossesse a été compliquée?
La grossesse a été compliquée, l'accouchement a été très très compliqué.
D'accord.
Et en fait, tout ce qui a suivi derrière, comme je te l'ai raconté déjà, suite à ça, j'ai fait un AVC, je suis devenue épileptique.
Ouais.
Donc, c'est ce qui a fait que j'ai complètement changé de mode de vie. Derrière.
Reviens juste, parce que, bon, justement. Revenons un petit peu sur les, enfin, un peu sur les détails, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de choses d'un coup. Donc, ta grossesse a été compliquée. Qu'est-ce qui t'est arrivé, en fait?
Alors, ma grossesse, j'ai été alitée pendant un petit moment, puisqu'il y avait des menaces d'accouchement prématuré. Ça a été quand même assez difficile pour moi. J'ai eu, on va dire, des petits soucis, mais qui étaient d'ordre on va dire, de la grossesse classique, où il a fallu que je reste allongée, etc.
D'accord.
On va dire, pour la grossesse, rien de grave en soi.
Okay.
Si ce n'est qu'on m'avait prévenu que j'allais devoir accoucher dans un grand centre parce que mon accouchement allait être compliqué, que ça allait être difficile, que j'allais avoir une césarienne, que voilà. Ouais. On m'avait prévenu que ça allait être difficile.
Qu'est-ce qui leur a fait dire est-ce qu'on t'a donné une raison précise sur pourquoi ton accouchement risquait d'être compliqué? Est-ce que c'était juste parce que tu avais eu quelques signes de complications pendant la grossesse ou...
On ne m'avait pas prévenu de pourquoi ça allait être compliqué. Et c'est justement ce que j'ai reproché au médecin à ce moment-là, c'est qu'on ne m'a rien dit. On m'a juste dit ça va être difficile, mais c'est tout.
Ok. On ne t'a pas informé plus que ça?
On ne m'a pas informé plus que ça.
Okay.
Quand j'ai accouché, je suis rentrée à la maternité donc le 4 mai pour mon accouchement. Il faut savoir que j'ai accouché le 7.
Ouais.
Donc, accouchement très, très long. Je suis allée de complication en complication. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. On m'a fait tout ce qui était possible, imaginable pour me déclencher un accouchement. Et le gynéco, ces jours-là, avait décidé que j'accoucherais naturellement envers et contre tout. Et je lui demandais qu'une chose, c'était de me lâcher. Alors que au départ, on m'avait dit que de toute façon, je risquais une césarienne. Donc, je comprenais
mentalement, tu étais préparée. Ouais.
Voilà, pourquoi ne pas me la faire de suite, quoi. Au final, je suis partie faire une césarienne et on est parti la faire. On a fini par me faire une césarienne en urgence en me rajoutant une dose dans la péridurale pour que je sois endormie complètement pendant que mon chariot roulait, en me disant que c'était une urgence vitale, qu'il y avait un code rouge et que l'hélicoptère était sur le toit pour que je parte dans une autre maternité. D'accord. Enfin bon, j'ai vécu un enfer ce jour-là. Oui. Quand ma fille est sortie, elle était complètement bleue, elle ne respirait pas. J'ai attendu pendant 3 heures dans une salle de réveil pour qu'on me dise si ma fille était en vie. J'avais perdu du sang, j'ai fait une hémorragie, j'ai perdu connaissance. Enfin bon, c'était très compliqué pour moi, cet accouchement-là.
Ça n'a pas l'air tout simple, effectivement. Il y a un truc sur lequel j'ai tiqué, c'est que tu me disais... Que le gynéco voulait absolument faire une grossesse naturelle, enfin un accouchement naturel. Pardon. On n'a pas le gynéco en question pour lui poser la question, mais tu ne penses pas que c'est peut-être tout simplement parce que maintenant on comprend que l'exposition à la flore vaginale de la mère est tellement bénéfique pour le nourrisson qu'il a voulu peut-être privilégier cette hypothèse, cette méthode.
Alors. Avec le recul, effectivement, on m'a expliqué qu'il voulait privilégier un accouchement naturel parce que c'était le premier et que pour le premier, on privilégie toujours un accouchement naturel. Mais quand j'ai eu mon second, puisque derrière j'ai eu un second, on m'a expliqué qu'en fait, il s'était trompé sur toute la ligne parce que il faut savoir qu'avant mon accouchement,
c'est pas drôle,
il m'a fait ce qu'on appelle un examen qu'on appelle une radiopelvimétrie.
C'est quoi?
C'est un examen qui sert à mesurer le col de l'utérus, enfin le bassin, pardon, le col de l'utérus, n'importe quoi, le bassin, pour savoir si l'enfant, le bébé, peut passer. Et une fois que l'examen est là, il y a une méthode de calcul qui nous dira si le bassin est chirurgical, beaucoup trop petit, dans ce cas-là, le bébé ne passe pas, un bassin limite. Ça peut passer, mais c'est en fonction du poids du bébé et où un bassin normal. Dans mon cas, moi, j'avais un bassin limite. Un bébé chez moi passe s'il fait 3,5 kg, pas plus. Ma fille faisait 3,9 kg.
D'accord.
C'était impossible qu'elle passe, mais impossible. Sauf qu'en fait, le gynéco s'était trompé dans le calcul.
D'accord.
Donc, il a tout essayé, sauf qu'en fait, s'il ne s'était pas trompé dans le calcul, il aurait su d'avance qu'elle ne passait pas.
Ok, et ça, tu l'as appris lors de ta deuxième grossesse.
Et ça, je l'ai appris quand il a envoyé le compte-rendu de mon accouchement à mon deuxième gynéco pour mon deuxième accouchement. Voilà.
Ok, on va en parler de ta deuxième grossesse, mais il s'est quand même passé quelque chose avant ça. Et tu avais commencé, c'est que tu disais que tu as fait du coup un accident cardiovasculaire, un AVC.
Donc, j'ai fait effectivement un AVC, en 2013.
Donc, c'était combien de temps après l'accouchement?
J'ai accouché en 2012. Donc, j'ai fait mon AVC un an plus tard.
D'accord.
Voilà. Donc, j'ai fait mon AVC en 2013. Suite à ça, on a découvert que j'étais épileptique. Donc, au départ, on pensait que c'était suite à l'AVC. En fait, pas du tout. C'était une épilepsie de naissance. J'ai eu 3 malformations au cerveau qui ont été diagnostiquées. En fait, donc, suite à ça, on m'a donné des traitements, on m'a mis sous traitement, donc j'ai des traitements anti-épileptiques, etc., des traitements qui sont assez lourds.
Et là-dessus, tu n'avais jamais eu d'incident épileptique, en revanche, avant cet AVC?
Non, j'ai toujours fait depuis petite des malaises avec perte de connaissance qui pouvaient être apparentés à des crises d'épilepsie, mais ça pourrait être en fait des crises d'épilepsie. D'accord. C'est malaise, mais on ne peut pas le prouver. Enfin, voilà. On ne peut pas savoir si ça en était à ce moment-là ou pas. Maintenant, je n'en fais plus. Des malaises avec perte de connaissance. Donc, ça pouvait être des crises d'épilepsie.
Ok.
Mais on ne le sait pas.
Non diagnostiqué, quoi.
Voilà. En tout cas, c'est bien une épilepsie de naissance puisque c'est une malformation, des malformations au cerveau.
D'accord.
Voilà. Donc, suite à ça, effectivement, bon, j'ai changé quand même pas mal de choses.
Vas-y, raconte-nous un peu ce que tu as fait.
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai mis en place donc, ce qu'on appelle un régime de cétose pour essayer de contrer un peu les médicaments que je prends pour l'épilepsie parce que c'est quand même un traitement qui est assez lourd.
Ok. Est-ce que tu peux juste nous dire, parce que ça c'est important lorsqu'on parle de tout ce qui est régime, etc. Il y a des étiquettes qu'on met sur les trucs, mais moi je trouve que c'est ta définition personnelle du truc en fait qui va compter. Parce que quelqu'un va te dire « Ouais, moi je fais un régime cétogène » et d'autres vont te dire « Ouais, moi aussi, mais en fait, ils ne mangent pas du tout les mêmes trucs. » Donc, c'est pas, tu vois, donc c'est quoi exactement ce régime, cette sauce?
Alors, pour moi, le régime cétogène, c'est pas du tout un régime. C'est simplement,
c'est quoi,
on va pas dire bannir complètement, mais limiter très fortement la consommation de glucides.
D'accord.
Puisque c'est ce qui est en soi très mauvais, on va dire, pour l'organisme. On le voit, et notamment maintenant, je le vois encore plus avec l'endométriose. Les glucides ont quand même un rôle très particulier dans notre organisme. Et en fait, on s'aperçoit, en suivant le régime cétogène, que l'organisme n'a pas besoin de glucides pour fonctionner.
Okay. Tu as découvert ça comment, toi?
Alors, moi, j'ai découvert ça en cherchant en faisant des recherches sur l'épilepsie et sur les traitements naturels pour l'épilepsie, tout simplement. Okay.
J'en avais marre des médicaments, c'est ça que tu me dis.
J'en avais marre des médicaments et en particulier quand j'ai eu mon fils, donc mon second, il a fait à sa naissance, il a fait une très grosse allergie au lait. Okay. Et comme je n'avais pas le droit de l'allaiter puisque les médicaments passent dans le lait, j'ai voulu arrêter d'un coup mon traitement anti-épileptique pour pouvoir l'allaiter.
D'accord.
Chercher en fait comment combler cette perte de traitement en fait.
Ouais.
Donc honnêtement, sur le moment, ça n'a pas marché hein, parce que j'ai arrêté le traitement d'un coup. Mais ouais. Il ne fallait pas le faire. Mais si je l'avais fait progressivement, je ne doute pas que ça aurait fonctionné.
Ouais.
Alors en soi, maintenant je ne tenterai pas d'allier régime cétogène plus enlever mon traitement anti-épileptique parce que j'en ai trop peur.
D'accord.
J'ai beaucoup trop peur des risques. Il faut savoir quand même que quand on nous enlève notre traitement anti-épileptique, si on fait une crise d'épilepsie, on nous retire le permis de conduire quand même. Donc, j'aurais trop peur du risque de celui-là, en tout cas. Un an de retrait de permis de conduire, ça me fait un peu peur. Mais je pense qu'effectivement, le régime cétogène a des pouvoirs insoupçonnés.
Ouais. C'est une alimentation qui a, je pense, déjà vraiment... Enfin, sa popularité, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même voir que c'est un peu partout. Je pense que sa popularité a vraiment démarré dans le traitement de l'épilepsie. Donc, on a quand même... c'est connu pour ça. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord. Mais je veux dire, je pense qu'il y a assez peu de ressources qui vont dire si tu souffres d'épilepsie, la cétose, c'est une mauvaise idée. Mais par contre, c'est sûr que c'est pas forcément quelque chose qui est examiné pour d'autres maladies, ou en tout cas qui est moins réputé en tout cas dans cette approche-là. Mais toi, par contre, tu as donc ça a fonctionné, ça a été efficace pour ton épilepsie.
Oui.
Mais tu as vu d'autres effets.
Alors, effectivement, j'ai vu d'autres effets. Alors, plus tard, effectivement, quand on m'a découvert l'endométriose, j'y reviendrai du coup tout à l'heure.
Ouais.
J'ai aussi fait des recherches sur l'alimentation et l'endométriose. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des aliments qu'il fallait, entre guillemets, bannir pour limiter les douleurs d'endométriose.
Ouais.
Du moins, des aliments qui étaient responsables de douleurs. Et dans ces listes d'aliments, je me suis rendu compte qu'il y avait particulièrement les glucides,
ouais.
Qu'il fallait limiter au maximum les glucides, qu'il fallait limiter, alors bon là en particulier ça ne fait pas partie du régime cétogène, mais les viandes rouges.
Ouais.
Alors en soi dans un régime cétogène on peut en consommer, mais ce n'est pas forcément un élément indispensable.
Oui, ce n'est pas du tout obligatoire. On peut, tout comme on peut ne pas.
On peut le remplacer. Il faut éviter aussi les produits laitiers ouais. dans le cadre d'une endométriose. Dans un régime cétogène, on prend beaucoup de lait végétaux. Donc, ouais. Puisqu'on peut aussi prendre des laits classiques, mais on essaie de prendre au maximum des laits végétaux.
Ouais, je crois que tu soulèves juste un truc vachement intéressant, c'est que je pense que beaucoup de gens perçoivent donc la pratique. En fait, déjà, le fait de dire régime cétogène, effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas le bon terme. D'accord ? C'est comme dire un régime végétarien, il y a 600 versions différentes. Une alimentation cétogène se décompose de 1000 façons. Elle peut être végétarienne, elle peut être végane, elle peut être complètement carnivore, elle peut être complètement omnivore. Et dans ces déclinaisons, tu en as des milliers de différentes. T'en as qui vont prendre du lait, t'en as qui vont pas prendre de lait, t'en as qui... Enfin, voilà, il y a toutes sortes de variations. Donc, effectivement, la cétose, c'est juste le principe de supprimer les glucides. C'est parce que c'est un phénomène chimique dans le corps. Tu arrêtes de manger des glucides, ton corps produit des cétones. Point. Peu importe comment tu t'y prends. Donc, je pense que t'as bien fait de mettre ce truc-là directement dessus. C'est pas, on utilise régime parce qu'on n'a pas vraiment, on n'a pas l'habitude d'utiliser d'autres mots lorsqu'on parle d'alimentation. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est pas un régime.
C'est ça. C'est un mode de vie. C'est pas un régime. Alors, certes, il est réputé pour faire perdre beaucoup de poids et très vite.
Ouais.
Mais c'est pas le but principal. Et d'ailleurs, il faut pas l'utiliser pour ça. Parce qu'une personne qui va l'utiliser pour ça et qui va l'arrêter au bout de 2 mois, elle va tout reprendre.
Voilà. Oui, exactement. D'ailleurs, souvent, la reprise de poids après une phase en cétose peut être rapide parce qu'en fait, tu reconstruis énormément de glycogène qui était en fait ce que tu avais généralement perdu au début. Donc, le glycogène, c'est ce qu'on stocke dans les muscles.
On refait le stock.
Ouais. Et le glycogène, c'est beaucoup d'eau en fait. Alors, j'oublie toujours le ratio, mais je crois que c'est genre... Pour un gramme, c'est genre un. J'oublie toujours le ratio, mais je crois que c'est en gros 4 unités d'eau pour chaque unité de sucre. Je vérifierai après. Mais du coup, c'est quelque chose qui pèse pas mal en fait. Et donc, du coup, c'est alors, ce que tu perds généralement au début de la cétose.
Honnêtement, je ne connais pas le ratio, mais je sais qu'au départ, quand tu commences ton régime cétogène, tu perds 2 kilos. Et c'est ta réserve de glycogène.
Ça va très vite. Moi, j'en ai perdu 8 en 15 jours quand j'ai commencé ça il y a 10 ans. Ouais. Je peux dire, ça m'a fait bizarre.
Énorme. Généralement, la première semaine, tu perds au moins 2 kilos. C'est ta réserve de glycogène.
Ouais, et puis, toutes les histoires que j'ai lues, les gens racontent la même chose. Mais le truc, c'est ce qu'on oublie, c'est quand tu vas dans l'autre sens. C'est-à-dire que lorsque tu cesses en fait, ta cétose et que du coup, tu te retournes vers une alimentation glucidique, si tu t'es pas adapté en fait à cette alimentation et que en fait les lipides ne sont pas ta première source de carburant, dès lors que tu réintroduis les glucides, ton corps se jette dessus comme si il fait enfin tu as pensé à moi et là tu reprends en fait très très vite parce que c'est un peu le choc glucidique que les coureurs cherchent à avoir avant les courses où ils veulent en fait ne pas consommer de glucides, puis ensuite en ramener énormément d'un coup pour que leur corps stocke tout en glycogène pour avoir le maximum de glycogène possible pour aller ensuite faire une course. Ah, ça y est, j'ai réussi à parler de course à pied. Bah, putain, je vais y arriver dans chaque podcast, c'est impressionnant. Bref, on va retourner à ton histoire. tu racontais que donc, tu t'es tourné vers ça, mais t'as pas été... Tu as voulu faire en fait, une approche surtout non inflammatoire, en fait.
C'est ça. Dans le principe non inflammatoire, du coup, j'ai oublié un aliment en particulier aussi qui est vraiment, vraiment important dans le cas de l'endométriose qu'il faut vraiment consommer quand on est atteint d'endométriose. C'est tout ce qui est poisson gras. C'est super important parce que c'est vraiment un anti-inflammatoire naturel en fait. Et ça, il y a énormément de personnes qui ne le savent pas. Faut savoir qu'en fait tout ce qui est poisson gras type saumon etc c'est un anti-inflammatoire naturel. Donc,
Alors, je crois que c'est lié au ratio d'oméga, en fait,
c'est ça.
d'acide gras oméga. Alors, on en a parlé sur un autre podcast avec Benoît Nave, qui est un ostéopathe et qui conseille des athlètes sur la nutrition. Du coup, on est passé un peu dessus. J'espère qu'on l'a dit quand on a enregistré. Parce que je n'ai pas encore monté l'épisode. Et donc, du coup, il expliquait qu'un ratio, on va dire, traditionnel d'oméga, c'est à peu près 50-50. Tu as oméga 3, oméga 6, c'est à peu près 50-50. Et en plus, il y a différents types d'oméga 3 et d'oméga 6. Et qu'aujourd'hui, notre ratio a tendance à être énormément perturbé, en partie à cause de la quantité de produits à base d'huile de graines qu'on consomme, qui sont très très riches en oméga 6, 3. Attends. Oh, ça y est, je me suis embrouillé. Oméga 6, oméga 3, j'ai oublié. Dans les
Oméga 3,
graines,
c'est celui qu'il y a dans le beurre.
Oui,
Donc ça doit être l'autre.
ouais, c'est ça, oméga 6, pardon, excuse-moi. Non, mais à force, on s'y perd dans tout ça. Bref, en gros, le ratio d'oméga a changé, en partie à cause d'une surconsommation autour des huiles de graines, qui elles sont très très riches en fait. Si tu mangeais que les graines, ce serait pas vraiment un problème, parce que même si tu en prenais des poignées, tu vas pas finalement gérer tant d'acides gras que ça. Par contre, tu prends une cuillère à soupe d'huile de colza, par exemple, et c'est plus que plusieurs poignées en fait, de graines, parce que tu as une quantité infime en fait, de lipides dans chaque graine. Et le fait qu'on en consomme quand même pas mal, ça perturbe vachement notre ratio. Et donc, c'est désormais très très dur d'avoir en fait, un ratio 50-50, tout simplement à cause de ce qu'on a tendance à consommer. Et puis, je parle des huiles de graines, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres sources aussi qu'on a développées qui étaient moins présentes, je pense, par le passé. Donc, voilà, les oméga, qui étaient la raison de se tourner vers le poisson.
Tout à fait. Et ensuite, il y a aussi, alors particulièrement, bon, c'est pas pour faire la pub du bio, hein, mais en particulier au niveau des fruits et légumes, il faut savoir que dans les fruits et légumes et dans tous les pesticides qui peuvent être sur ces fruits et légumes, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de perturbateurs endocriniens et qui jouent un rôle énorme sur l'endométriose. Moi, j'ai vu une différence sur la consommation de fruits et légumes entre le bio et le pas bio. Il faut faire la différence entre les deux, puisque franchement, ça joue un rôle sur les douleurs.
D'accord. C'est un peu logique quelque part. Si ça a une influence en fait sur ta production hormonale et que c'est
Voilà.
une maladie qui est
Et
liée à ta production hormonale, je peux comprendre que oui.
il faut savoir aussi que, alors, il y a des études qui prouvent, vrai ou pas vrai, je ne sais pas, hein, mais
Oui,
je
il y
me
a
fie
sûrement une étude qui dit le contraire. Voilà,
aux
hein?
études scientifiques, mais
Voilà.
il paraîtrait donc que la consommation de fruits et légumes non bio, on va dire, pendant la grossesse, pourrait engendrer donc un effet précurseur de l'endométriose chez l'enfant à naître, donc dans le cas donc où la maman consomme des fruits et légumes avec des pesticides, puisque y aurait un perturbateur endocrinien précurseur donc vers l'enfant.
Oui, quelque part, j'ai envie de dire, c'est un peu du bon sens. Hein. Si on asperge des produits sur nos aliments qui, si on devait les en manger une cuillère à soupe, nous serait complètement fatal, il ne faut pas s'étonner que derrière, ça ait un effet sur notre corps, même si on en consomme des microdoses. Hein. Donc, d'ailleurs, sur le coup des huiles de graines, c'est un peu tout le problème avec les huiles de graines, c'est que les huiles de graines industrielles sont souvent produites avec des solvants. Et ces solvants, même s'ils ne sont pas présents à proprement parler dans l'huile, il reste toujours des traces et c'est considéré comme, enfin, c'est un produit extrêmement inflammatoire et souvent un peu pointé du doigt comme étant potentiellement presque pire que l'épidémie de sucre. J'ai vu différents avis là-dessus, mais du coup voilà, c'est des microdoses. Sauf que les microdoses, si tu en consommes tous les jours, tout le temps, à tous les repas, Ou là, non, c'est plus vraiment une microdose, c'est une petite dose. Et cette petite dose, bah, si c'est un produit qui est dangereux, bah, c'est mauvais pour toi.
Tout à fait.
Donc, tu nous parlais donc enfin, on est un peu avant ton diagnostic d'endométriose.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Donc, un peu avant ça, effectivement, donc j'ai fait donc mon diagnostic d'épilepsie. Donc là, à partir de là, on m'expliquait que ben, un deuxième enfant, quasiment impossible. Très compliqué pour moi, puisque ben, effectivement, mon mari en voulait absolument un second.
D'accord.
Donc, j'ai fait les pieds et des mains pour en avoir un second. Et à ce moment-là, effectivement, je ne savais absolument pas que j'étais atteinte d'endométriose et donc que ça allait encore plus compliquer mon parcours. Déjà, j'ai cherché un gynéco qui était d'accord pour poursuivre une éventuelle grossesse, parce qu'il faut savoir que dans le cas de l'épilepsie et dans mon cas, moi, avec un AVC, etc., une grossesse, c'est très compliqué et il y a très peu de gynéco qui acceptent de suivre ce type de grossesse-là. Et j'ai aussi des antécédents dans ma famille qui font que ben, c'était une grossesse à risque.
D'accord.
Donc j'ai cherché un gynéco qui voulait bien suivre ma grossesse. Je me suis retrouvée dans une maternité à 90 km de chez moi.
D'accord, c'est pas pratique ça.
Pas très pratique. Mais effectivement, j'ai trouvé le gynéco en or qui a bien voulu suivre cette grossesse-là.
D'accord.
Donc je m'y suis pris 1 an et demi à l'avance. Et bon, mais tant mieux, puisque j'ai mis 1 an et demi pour tomber enceinte.
Ouais.
Mais bon, je m'y étais pris largement avant. Normalement, il faut s'y prendre au moins 6 mois avant. Mais bon, j'ai mis 1 an et demi pour tomber enceinte.
D'accord.
Bon, mais j'ai réussi à tomber enceinte quand même au bout d'1 an et demi.
À ce stade, par contre, tu pratiquais donc une alimentation cétogène depuis un petit moment, c'est ça?
Alors, à ce stade, je la pratiquais plutôt low carb, on va dire. Je ne suis pas vraiment
Non, tu me l'avais déjà précisé, mais ouais, donc
Voilà.
tu avais découvert l'alimentation cétogène, tu t'y étais tourné pour ton épilepsie. En revanche, pour la suite, tu avais donc pratiqué une alimentation juste faible en glucides. Ça donne quoi à peu près, on se rend compte?
En quantité, tu veux dire?
Ouais, par exemple, ou juste nous décrire des pratiques.
Très honnêtement, je ne calcule pas vraiment. La seule chose que je fais, c'est bannir au maximum les glucides. Après, je ne calcule pas forcément.
Ok, ouais, tu privilégies les sources, les autres
Je
sources de
privilégie
macro.
voilà, les lipides, etc. Je maximise le gras, mais après, je ne calcule pas forcément.
D'accord. Et est-ce que, en plus de tout ça, parce que bon, effectivement, ça a dû avoir un impact. Donc, tu me dis, ça a eu un impact sur ton épilepsie, ça a eu un impact sur ton. Enfin, tu ne savais pas encore, mais sur ton endométriose. En plus, du coup, tu tombes enceinte alors qu'on t'avait dit qu'a priori, ça ne devrait pas trop avoir lieu. T'as dû quoi, perdre du poids aussi, j'imagine? Ou enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a eu d'autres impacts sur ta santé ou pas?
Effectivement, avant ma grossesse, j'ai quand même assez perdu de poids. Entre mes deux grossesses, j'avais tout perdu du poids que j'avais pris pour ma première grossesse.
D'accord.
J'avais aucun souci. En début de grossesse, j'avais quasiment pas pris de poids. Pendant ma grossesse, très honnêtement, j'ai dû prendre, sur toute la grossesse, j'ai dû prendre 12 kilos.
D'accord.
Et
Ça, ça inclut l'enfant, ça?
Ah oui, ça inclut l'enfant pour un
Voilà,
bébé. Pour un bébé de 3,9 kg, hein, donc
ok.
c'était pas grand-chose, quoi.
Non, ça va. Ouais, c'est vrai que
Donc,
c'est pas énorme.
non, voilà. Et donc, du coup, effectivement, je suis tombée enceinte. J'ai eu un suivi de grossesse pareil, très compliqué, effectivement, voilà, avec mes antécédents, etc., très dur. Mais un accouchement qui s'est très bien passé. Et au moment de l'accouchement, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le gynéco m'a expliqué pendant que j'étais sur la table et qu'il m'a fait donc la césarienne à la fin. Il a fait donc le tour du champ et puis il m'a dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Vous avez pas mal d'adhérence au niveau de la vessie. Tant que vous êtes ouverte, je préfère opérer et régler ce souci-là parce
D'accord.
que c'est pas normal et que je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si ça vient de votre précédente césarienne, je ne sais pas ce que c'est, mais je préfère régler le souci
D'accord.
tant qu'on est, en gros, tant que c'est ouvert, autant le faire, quoi.
Ouais. Et c'est quoi de l'adhérence au niveau de la vessie? Parce que enfin, je n'ai pas souvenir
Alors.
que ma vessie est adhérée à quelque chose.
En fait, c'est des tissus qui se créent entre deux organes et qui font que les deux organes restent collés.
D'accord,
Et en
ok.
fait,
Ok.
donc c'était mon utérus et ma vessie qui étaient complètement
Ok,
collées, ce qui
d'accord,
n'est
je
pas
comprends mieux.
normal. Normalement, elles sont censées être dissociées.
Ouais.
Et donc, lui, il ne savait pas exactement d'où venait ce tissu qui s'était créé. Il ne savait pas si c'était de ma précédente césarienne ou
Ok, donc
pas.
c'est un tissu qui s'était formé,
Donc,
carrément. Ok.
voilà. Maintenant, on sait que c'est l'endométriose qui a créé ce tissu-là. Mais
Ok.
lui, à ce moment-là, ne le savait pas, puisque je n'étais pas diagnostiquée endométriose.
D'accord.
Et donc, voilà, il n'a pas fait plus le tour que ça. Et en même temps, il venait de me faire une césarienne. Donc, je suppose pour lui que ce n'était pas tout clair à l'intérieur.
Ouais, il avait peut-être d'autres priorités en plus à ce moment-là.
Voilà.
Ouais.
Et puis surtout qu'en plus, pour sa défense, il m'a fait quand même ma césarienne entre deux consultations. Donc, du coup, bon, il a fini d'opérer ça, il a enlevé les adhérences, puis il est reparti. Et donc, voilà, il m'a gardée en observation. J'ai été hospitalisée 7 jours après ma césarienne. Enfin, tout s'était bien passé. Et après ça, donc, ben, j'ai continué mon suivi avec un gynéco un peu plus près de chez moi, puisque
Ouais,
ben,
d'accord.
que nous, c'était quand même à 90 km. Donc, bon, j'en avais pris un peu plus près.
J'ai
Et
juste une
ce gynéco.
question.
Oui.
Lorsque du coup tu es effectivement sur la table de travail, d'ailleurs j'ai horreur de ce terme, mais enfin, lorsqu'on te fait ta césarienne et qu'on te dit bah je pense qu'il y a autre chose, toi tu t'es dit quoi à ce moment-là? Parce que j'imagine que ça doit te foutre un peu les jetons quand même, non?
Alors, pas forcément, parce
Il était
que bah,
rassurant.
à ce moment-là, ouais, je lui faisais entièrement confiance.
Bon, ça va
Je lui
alors.
faisais vraiment entièrement confiance. Et il faut savoir qu'en fait, tout ce qu'il avait fait avant était génial. Donc,
Ok.
honnêtement, j'avais 100% confiance en lui et je l'aurais tout laissé, quoi.
Ouais.
Non,
Ok.
j'avais aucun doute. Donc, il m'a dit qu'il ne savait pas exactement d'où ça venait, que c'était peut-être ma précédente césarienne. Voilà, j'ai laissé quoi.
Il
Pour moi,
a
c'était
été honnête avec toi, il t'a dit qu'il savait pas et
voilà. Donc, du coup, après ça, l'autre gynéco que j'ai vu après mon accouchement, je lui ai expliqué que ben, après l'accouchement, avec la chute hormonale, etc., que j'avais énormément de douleurs qui étaient revenues pendant les rapports. Et
ouais.
alors, ça, c'était après le second accouchement. Et là, ça a été de pire en pire. Et lui m'a expliqué que ben, quand j'avais mal, j'avais qu'à changer de position. Et puis, c'était tout, quoi. Donc, petit à petit, c'est devenu de plus en plus compliqué. À chaque fois, c'était de pire en pire. Enfin, c'était de plus en plus souvent que j'avais mal.
Ça me désole vraiment d'entendre des trucs comme ça. Je...
C'est ça. Et alors après, ce gynéco-là, c'était un vieux de la vieille, quoi. Il était quasiment retraité. Enfin, voilà, c'était pas le genre de gynéco à chercher endométriose, quoi.
Ouais.
Et puis un jour, ça, c'était juste après mon accouchement. Petit à petit, je suis retournée vers des contraceptions, on va dire, des contraceptions longues, enfin, sans interruption, ben, voilà.
Oui, comme on décrivait tout à l'heure, quoi.
Voilà, je me suis tournée vers l'anneau contraceptif.
Ouais.
Donc, l'anneau qu'on met en continu. Alors, moi, dans mon cas, qu'on met en continu. On peut le mettre en discontinu, mais moi, je le mettais en continu. On le met une fois et on l'enlève au bout de. Alors, je crois que c'était au bout de 4 semaines,
Ouais.
moi. Et donc, je l'ai mis comme ça pendant quelques années, je dirais,
Ouais.
pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'avais mis mon anneau comme tous les mois. Et ce mois-là, je crois que c'était le mois de trop.
D'accord.
Donc, j'ai eu de grosses douleurs.
Mais plus que d'habitude, du coup.
Plus que. Ah oui, non, mais des douleurs affreuses. Vraiment, je ne pouvais plus, je tenais plus, je pleurais au travail. Enfin, c'était un enfer. Puis un jour, mon patron m'a dit, mais va consulter, ça va pas, quoi. Et donc, je suis allée consulter, je suis allée à l'hôpital, donc aux urgences. Ah non, pardon, je suis allée voir le gynécologue de garde. J'avais des pertes marron. Je suis allée voir le gynécologue de garde, qui était le gynéco qui m'avait dit que quand j'avais mal, il fallait que je change de position.
D'accord. Donc, ton meilleur ami.
Ah oui, c'était mon grand meilleur ami. Donc, je suis allée le voir en lui disant que j'avais mal au ventre et que j'avais des pertes vaginales marron. D'accord. Et lui, il m'a dit catégoriquement que ce n'était pas gynéco. Donc, il m'a envoyée aux urgences.
Okay.
Et l'urgentiste que j'ai vu m'a dit non, c'est sûr, c'est ORL. Vous avez des pertes vaginales, c'est forcément ORL.
D'accord.
Il était mort de rire. Mmh. Et donc, il m'a envoyé vers un autre gynéco. Donc, un gynéco beaucoup plus jeune du même hôpital. Hein, ouais. En lui disant, l'autre gynéco, là, elle a vu un tel. Il lui a dit que c'était pas gynéco. Enfin, elle a quand même des pertes vaginales et elle a mal au ventre. Donc, c'est forcément gynéco, quoi.
Ouais.
Et il faut savoir que cet urgentiste en question, je le connais très bien puisque j'ai travaillé avec lui pendant 4 ans. J'ai été secrétaire médicale aux urgences pendant 4 ans. Donc, il m'a renvoyé donc en gynéco voir ce jeune gynécologue qui était très gentil et qui est maintenant mon gynécologue qui me suit.
Ok.
Et donc, lui m'a dit bon, ben, on va faire une échographie et il a découvert que j'avais une salpingite. Donc, c'est.
Alors, c'est quoi ça ? Est-ce que je ne connais pas ?
C'est une infection de l'ovaire.
D'accord.
Enfin, une infection de la trompe plutôt, en soi. Okay. Donc là, j'avais une grosse infection de la trompe qui était due. Alors, ça peut être dû soit à une MST.
D'accord.
Généralement, c'est un dispositif contaminé. Donc, ça peut être soit un stérilé contaminé. Mm-hmm. Généralement, c'est au moment de la pose d'un stérilé ou d'un retrait d'un stérilé. Moi, il se pourrait que ce soit dû à un anneau contaminé, puisque j'ai enlevé et je retirais mes anneaux.
Ouais.
Bien sûr, c'est pas prouvé, donc on va pas incriminer les anneaux.
Ouais.
Je doute que ce soit une MST. J'espère que mon mari soit fidèle. Et bah, comme il n'avait rien sur les tests, il n'y avait que moi qui l'avais. Donc, il y a très peu de risques que ce soit ça.
Okay.
Et donc, voilà. Donc, du coup, j'ai été opérée. À ce moment-là, on m'a enlevé. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a découvert l'endométriose en m'opérant.
D'accord.
Donc, on m'a enlevé les deux trompes. Puisque j'étais... assez atteinte au niveau de l'endométriose. Quand je me suis réveillée, il m'a expliqué que quand il a ouvert, que j'avais du sang partout au niveau du ventre. Mes règles venaient de se finir, en fait. Donc, dans ce qu'il m'a expliqué juste après l'opération, quand j'avais mes règles, le sang, au lieu de s'écouler vers le bas, remontait par mes trompes et allait s'écouler dans mon ventre avant de redescendre.
Ok, ok.
C'était le processus inverse. C'est ce qui faisait que mes nodules se créaient à l'intérieur de mon ventre. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup de nodules à l'intérieur du ventre. C'est ce qui provoquait mes énormes douleurs et cette sensation d'infection que j'avais. Et donc, quand il a ouvert, j'avais du sang partout. Donc, il a eu beaucoup de mal à travailler et c'est pour ça qu'il m'a retiré les deux trompes.
D'accord.
Puisque, effectivement, pour lui, le fait que le sang remontait par les trompes, le fait de retirer les trompes pouvait ralentir le phénomène, pouvait freiner le phénomène, en fait.
Ouais.
On leur coupait leur circuit, le fait de les enlever. Donc, il a décidé de retirer les trompes. Il m'a expliqué qu'il aurait également pu enlever les nodules, mais que c'était une opération trop lourde et qu'il préférait m'en parler avant, sans m'en parler, en fait, sans mon avis.
Ouais.
Il est venu m'en parler donc une fois que j'étais bien réveillée. Il m'a dit on en reparlera quand vous serez vraiment lucide. Parce que là, il m'a expliqué ça en salle de réveil et j'étais pas encore très bien réveillée.
Oui.
Donc, il est revenu me voir une fois que j'étais bien réveillée au moment de ma sortie. Et donc, au moment de ma sortie, il m'a dit qu'il faudrait réopérer, qu'il faudrait soit enlever juste les nodules, mais que le fait d'enlever les nodules, ça pouvait revenir, que ça ne réglerait pas forcément mon problème de douleur à l'utérus.
Ouais.
Qu'on pourrait également essayer un traitement de ménopause artificielle.
D'accord.
Que ça pouvait ne pas forcément régler le problème, mais qu'il y avait une autre solution et que c'était la solution, on va dire, de dernier recours.
Mmh.
Qu'il m'en parlait parce que pour lui, ça pouvait être la solution qui réglerait tout mon problème, que de toute façon, ben, le fait qu'il m'ait retiré les trompes, j'étais déjà stérile. Et que, ben, voilà, maintenant que c'était à moi de décider et que ce qu'il me proposait, lui, que d'abord, on allait tester tous les autres traitements, mais ouais, que sa solution de dernier recours, c'était de me retirer l'utérus. Donc, une hystérectomie.
Et tu as donc 28 ans.
28 ans. Donc, pour le moment, on a testé d'abord un stérilet. On a mis un stérilet hormonal il y a 3 mois, mm-hmm, que j'ai gardé pendant 2 mois. Ça a été horrible. Je ne l'ai pas supporté. J'avais des saignements permanents. J'étais pliée en deux tout le temps. Je pleurais, je hurlais de douleur. Enfin, c'était un enfer. On a décidé de le retirer. Là, je suis sous traitement depuis un mois et demi de ménopause artificielle. Et on a décidé ensemble qu'on ne passait pas par l'opération de retrait des nodules, parce que dans mon cas, ça ne sert à rien. Il y en a beaucoup trop et ce serait une opération trop lourde. On passe directement par l'hystérectomie subtotale au mois de juillet.
Qui du coup, bah, enlèvera les nodules en fait, en soi.
Ah ben du coup, ça enlèvera les nodules, l'utérus et je serai ménopausée.
D'accord. C'est un peu dur à encaisser, mais cette ménopause artificielle que tu fais aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un traitement que tu suis ?
C'est un traitement que je suis. C'est un traitement avec des... C'est, en fait, c'est une forme de pilule, mais très, très, très dosée. En fait, c'est une pilule la plus forte, on va dire, qui existe, que je prends en continu et qui m'arrête complètement les règles.
Ouais.
Mais qui me donne aussi les symptômes de la ménopause.
Ouais.
Et ça, c'est très, très dur. C'est-à-dire que ben là, par exemple, j'alterne les périodes de bouffée de chaleur avec les périodes de je grelotte. Je passe par les périodes où je n'ai pas du tout, on va dire, pour utiliser les mots simples mais concrets, où je n'ai pas du tout de libido, parce que c'est le cas. C'est absolument le cas. C'est tous les symptômes de la ménopause, quoi. C'est un enfer. Mais je n'ai pas le choix de passer par là d'ici l'opération, parce que sinon je suis pliée en deux de douleur.
Ouais. Tu me disais dans notre conversation, je vais essayer de passer sur autre chose, parce que pour l'instant, c'est quelque chose que tu as pris cette décision. Tu me l'avais écrit, hein. Tu m'as dit j'ai choisi l'hystérectomie. Parce que, tu as choisi de faire ça, mais je me souviens. Lorsqu'on en parlait avant l'émission, tu me disais, par contre, je considère que ces choix que j'ai faits sur mon mode de vie, je ne vais pas les arrêter. C'est-à-dire qu'ils ont été, ils ont été pertinents pour aider quelque part ton endométriose. Pourtant, regarde où tu en es aujourd'hui. Mais malgré tout, tu comptais continuer. Pourquoi ?
Au niveau de la cétose, tu voulais dire ?
Oui, de l'alimentation faible en glucides.
Oui. Alors, effectivement, je ne vais pas les arrêter parce que oui, c'est un mode de vie. Maintenant, je serai, une fois l'hystérectomie passée, je serai peut-être moins stricte quand même avec ça. Il faut être honnête, il y a des moments où je rêve d'une bonne pizza, hein, comme tout le monde. Mais... je serais peut-être moins stricte avec tout ça. Maintenant, c'est quand même un mode de vie qui m'a beaucoup aidée. Et c'est quelque chose auquel je me suis habituée. C'est quelque chose avec lequel je vis et je me sens bien comme ça. Quand j'ai essayé à certains moments, quand je suis invitée, quand je suis de mariage, quand je vais au restaurant, il y a des moments où on ne peut pas toujours manger céto, on ne peut pas toujours manger low carb.
Ouais.
Donc, je mange autrement, mais quand on mange autrement, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais notre corps s'habitue comme ça. C'est comme si une personne qui mange normalement, du jour au lendemain, elle se met à manger ben, le régime du camp, quoi, par exemple. Je pense que la personne, elle va se sentir mal. Enfin, elle va avoir, elle va sentir qu'il y a quelque chose de différent dans son corps. Elle, voilà. Enfin, on se sent différent quand on a, quand on mange différemment, quoi.
Je pense que tu as touché à un truc important là. C'est qu'en fait, on peut mettre en avant toutes les pratiques alimentaires qu'on veut. Le fait est qu'on s'adapte aussi à ce qu'on est en train de manger.
C'est ça.
On trouve une espèce de normalité. Et du coup, tout changement, s'il est un peu abrupt, donc par exemple, je suis une alimentation faible en glucides, et d'ailleurs, tu parlais de sortir faire des mariages, je me souviens, j'étais au mariage d'amis il y a quelques temps, et bah, il s'avère qu'au menu, il n'y avait quasiment que des trucs à glucides à un moment. Et bah, le truc, c'est qu'en soi, il n'y avait pas de problème à en consommer. Parce que j'en mange jamais, donc ça, il ne serait rien passé. Mais franchement, je ne me suis pas senti bien. Et alors que, enfin, c'est juste que j'ai mangé ça sur une journée, et beaucoup, alors que normalement, j'en mange jamais, tu vois. Donc c'est en fait, ça. C'est cette espèce de transition.
On se sent lourd, en fait. Ouais, donc forcément, on ne se sent pas bien. Et, je pense qu'une fois qu'on est habitué, on ne peut pas revenir en arrière.
Enfin, c'est difficile, alors, en tout cas. Il faut que ce soit progressif.
Ouais, c'est ça. Il faut passer par une phase d'adaptation. Alors, c'est vrai qu'effectivement, à des moments, je me dis que ce serait plus simple parce que je mangerais comme mes enfants, parce que voilà. Mais je pense que ce n'est pas possible.
Donc, tes enfants, du coup, ne sont pas du tout alignés avec toi?
Pas du tout. Ni mes enfants, ni mon mari.
D'accord. Ben, ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse. J'étais pas au courant. Donc, du coup, j'ai envie qu'on en parle un petit peu. Parce que c'est... c'est un sujet dont j'ai déjà parlé sur le podcast. Moi, je pense que c'est... Et donc, professionnellement, il m'arrive de parler avec les clients. Le fait de faire ça au niveau d'un foyer.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que sous un même toit. Quand je dis faire ça, ce n'est pas la cétose, hein, c'est juste une alimentation. D'accord. Avoir une pratique alimentaire qui n'est pas partagée par les autres. Quand on voit l'importance de l'alimentation dans certaines familles, enfin, de l'alimentation... ça se fait très froid. L'importance du repas, en fait, dans certaines familles.
Oui.
Cet acte très convivial, en fait, qui est de casser la croûte ensemble. Mais quelque part, en fait, en mangeant différemment, surtout lorsqu'on va à contresens, en fait, de ce que font les autres, parfois on s'exclut. Et ça peut être, je sais, très dur pour certains. Toi, tu as fait le choix... du coup, de faire ton truc dans ton coin.
Alors, moi, je ne fais pas vraiment mon truc dans mon coin. Faut savoir que la seule chose que je fais, je vais pas dire différemment, on va dire, c'est c'est l'ingrédient principal que je change. Par exemple, quand mes enfants mangent pas de carbo, ben moi, je vais manger pas de carbo, sauf que je vais utiliser des pâtes de konjac.
Ouais. Okay.
Quand mes enfants mangent hamburger, ben je vais manger des hamburgers, sauf que au lieu du pain hamburger normal, je vais mettre du pain oupsie. Voilà. Enfin, je mange pareil qu'eux, sauf que c'est l'élément principal du plat que je change pour manger comme eux.
D'accord.
Voilà. Mais sinon, le plat, au final, c'est le même.
Ouais.
Après, j'adapte, par exemple, quand eux mangent un yaourt, et ben moi, je mange du... de mince. J'arrive pas. Les fat bombes. C'est avec quoi qu'on les fait?
Bah, ça dépend. Il y a plusieurs recettes, ça. Quoi, avec du beurre. Tu disais quand eux, ils mangent. Donc,
quand tu manges des yaourts.
Quand tu manges des yaourts, toi tu manges quoi du coup? Parce que tu dis fat bomb, mais fat bomb on peut les faire à partir de pas mal d'ingrédients différents.
L'ingrédient principal du tiramisu est de moi.
Le mascarpone.
C'est ça. Si je n'arrive pas à trouver le truc.
D'accord, donc toi tu manges du mascarpone.
Voilà. Tu vois, ils mangent un yaourt, je mange du mascarpone. Enfin, je veux dire, c'est pareil. Ils n'ont pas l'impression que ce soit bien différent.
Oui, c'est... donc pour eux, c'est juste tu fais le tien, en fait. Et c'est toi qui prépares.
Voilà. Non, c'est pas eux.
Non, en fait, est-ce que c'est toi qui prépares à manger, pardon.
Ah, pardon.
Je parlais un peu.
Alors, c'est moi, oui et non. Ça peut être moi, ça peut être mon mari. Des fois, ça peut être mon mari et moi. Par exemple, moi, je me prépare mon truc et mon mari prépare pour les enfants.
D'accord.
Voilà, ça dépend. Après, par exemple, si je fais une salade de tomates, quelque chose, les enfants vont manger la même chose que moi.
Oui.
Donc, voilà, c'est pas. J'ai pas l'impression qu'on fait des plats différents.
D'accord. Non, c'est intéressant parce que je me suis retrouvé à en parler récemment et c'est vrai que. Enfin, je sais que c'est un témoignage qui revient régulièrement. De dire bah c'est vachement dur à la maison parce que bah moi j'ai pas envie de manger la plâtrée de riz et du coup bah les gens ils ont envie de faire un riz de veau donc moi ça m'embête un peu parce que voilà et donc c'est où j'ai pas envie de manger tel ou tel truc, enfin tu vois, j'ai envie de faire des tomates farcies mais moi je veux pas qu'on mette du riz dans la farce, enfin je veux pas qu'on les farcisse avec du riz, du coup les gens font la gueule parce que c'est la les gars ou juste sont pas contents parce que c'est la recette qu'ils aiment bien, donc ils disent ah, laisse tomber, on fait pas, tu vois, enfin c'est pas toujours facile en fait de pratiquer cette alimentation quand les gens autour de toi non, tout simplement, enfin quelque part la rejettent en fait. C'est
je suis d'accord, quand c'est la céto stricte, honnêtement c'est très compliqué. C'est très compliqué du moins pour la vie pour la vie en communauté quand on est invité, quand on reçoit, là je suis d'accord que ça devient vite difficile.
Ouais, et enfin après avec le temps je trouve qu'on apprend quand même, on apprend un peu à se démerder avec, mais oui, c'est vrai que c'est jamais si simple.
C'est vrai, et puis les gens s'habituent parce qu'au début les gens ont l'impression que c'est une nouvelle lubie. Et à la fin, ils se disent ah oui, bon, quand même, bon, peut-être qu'on va s'adapter.
Ouais, ouais. Et c'est d'ailleurs, avec l'âge, quand ils oublient, en fait, c'est toujours une nouvelle lubie. C'est parce qu'ils ont oublié que la dernière fois, tu leur avais dit que c'était ça, et du coup, ils le redécouvrent. Ah, c'est rigolo, alors... tu peux avoir la même conversation 80 fois. Mais.
Bon, mes parents ne sont pas encore assez vieux pour avoir ce comportement-là, donc je te dirai dans quelques années. Mais...
je faisais plus écho à mon expérience personnelle. Mais... ok, donc tu penses quand même que tu vas maintenir cette pratique. Mais bon, on va dire
je pense que je vais plus relax. Ouais, je vais le maintenir, mais en étant peut-être plus relax. Tu vois, par exemple, quand je serai invitée, peut-être... voilà, peut-être pas forcément leur dire ouais, fais quelque chose à part parce que moi je mange comme ça. Peut-être pas forcément demander un plat à part, quoi.
Après, enfin, je trouve que c'est une alimentation. Alors, j'aime pas les appellations céto, low carb, machin, enfin, c'est trop compliqué. Pour moi, c'est manger de la vraie nourriture, hein. Mais y a des, enfin, tu peux intégrer des glucides dans ta alimentation sans vraiment te faire du mal. Enfin, tout dépend en fait ton degré de tolérance aussi, parce qu'il est un peu individuel. Mais le truc, c'est que je me rends compte que dans beaucoup de cas, si tu ne dis pas aux gens que tu es en train de faire de la cuisine faible en glucides et que tu leur fais à manger avec des viandes, des œufs, peu importe ce que tu consommes. Après, si, effectivement, si toi, tu avais fait ce choix pour ton endométriose de réduire l'inflammation, de ne pas avoir de viande, par exemple, mais... tu leur fais à manger donc quoi, des viandes, des poissons, des trucs, des légumes, bah, et que juste tu leur sers pas les riz, le riz, qu'il y a peut-être pas de pain, il y a pas de pâtes, tu vois, enfin, bah parfois, enfin ou parfois même, c'est assez facile finalement qu'ils se rendent même pas compte en fait qu'il y a pas de
glucides, ah,
parce que c'est juste de la vraie nourriture.
Complètement. Alors moi je vais pousser même le vice plus loin, c'est que bon, alors j'ai la facilité du fait que mon mari ne fait pas ça. Je leur sers mes plats à moi. Alors je fais du coup pour tout le monde ce que moi je mangerai.
Ouais.
Mais je mets le pain sur la table puisque mon mari mange du pain.
D'accord.
Par contre, à l'apéro, je suis capable de mettre des olives, enfin tout ce qu'on mange en céto.
Ouais.
Et du coup, ils ne se rendent compte de rien.
Ouais. Mais c'est ça, et c'est voilà. Que c'est aussi éviter. Je dis pas, je dis, enfin, je suis pas convaincu. Enfin, je suis pas forcément un adepte de poser des restrictions alimentaires aux enfants. Je pense qu'il faut juste leur laisser manger un petit peu. Enfin, il faut essayer de les éduquer. Et je pense que, enfin, ils se trouveront un peu de même. Mais après, voilà, je suis pas parent, donc j'ai pas forcément beaucoup de vécu là-dessus. Mais en revanche, je pense que chercher à les exposer un peu moins, peut-être, aux plâtrés de pâtes. À tire-larigot parce que je sais que c'est facile, mais malheureusement, enfin, c'est vraiment pas équilibré. Donc, je pense que tu fais bien d'avoir un peu cette approche-là. Et tu vois, enfin, quelque part, ils mangeront un peu ce que tu leur donnes, quoi. Enfin,
c'est
surtout
ça.
Si c'est devenu une habitude et que globalement, ce que tu leur proposes est intéressant.
C'est ça.
Bon, après, ça, c'est mon avis. Hein. Ça vaut ce que ça vaut.
Il s'habitue. Ouais.
Ok, donc et donc tu penses du coup que toi tu vas un petit peu lever le pied là-dessus, plus par confort qu'autre chose, mais que tu vas quand même rester sur ce qu'on appellera tout simplement une, enfin c'est la terminologie, je pense que c'est une alimentation LCHF, donc faible en glucides, donc low carb, donc faible en glucides et avec plus de lipides, donc high fat, LCHF.
Oui, c'est ça.
Okay.
Qui, tu le fais bien, et je confirme.
qui est une famille du coup de pratiques alimentaires très 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 large.
C'est ça.
Ok. D'ailleurs, je pense que, enfin moi j'ai essayé de faire ça récemment. On voulait faire une pizza, pas tant parce qu'on voulait une pizza, mais parce que c'était juste pour faire un truc un peu différent. Et on a essayé du coup une pâte à base de mozzarella, on a essayé de faire ça. C'est pas mal du tout. Donc, si jamais tu as envie de ce petit plaisir, et enfin, on a trouvé que c'était très très réussi.
Ouais.
Donc, je n'ai pas de recette sous le nez, hein, mais je suis sûr que ça se trouve. Avis à nos derniers invités qui sont venus et qui m'ont parlé de recettes de cuisine. On cherche une recette de pizza à base de fromage pour Anaïs.
Mais il y en a une sur Internet, je l'avais trouvée déjà.
Ouais, c'est pas mal, hein. Non, franchement, c'est sympa. Ouais. Mais
il y en a une qui est sympa sur Internet, j'avais tapé pizza Seto, je crois. Et il y a une pâte à pizza à base de d'emmental et de je sais plus quoi. Je l'avais testée, elle était pas mal.
Ouais, bah, nous on a fait ça récemment, je te dis, avec de la mozzarella et un petit peu de farine d'amande. Franchement, ça se tient. Et du coup, on a retrouvé un petit peu le... Parce que la pizza, en fait, c'est ce truc un peu convivial, tu sais, où tu attrapes ta petite part. Et il y a un truc très, très détendu, en fait, avec le format. Et du coup, le fait de pouvoir reproduire ça, la pizza ne nous manquait pas. Ce n'est pas qu'on avait envie de manger du pain, en fait. C'est ce truc super détendu du format. Et alors, il y a d'autres façons de faire qui sont quand même pas mal. Hein. Tu peux avoir des trucs qui sont assez proches. Mais là, du coup... Ça te ramène un peu à des souvenirs de confort, peut-être que tu ça te rappelle à l'image, les soirées télé, les trucs, tu vois.
C'est ça. Non, mais je sais pas, c'est l'idée de la pizza. Hein.
Bon, bah,
alors écoute, que si ça se trouve, peut-être que quand je vais la voir, j'en aurai pas envie, hein, ou qu'elle me fera mal au ventre pendant 2 jours. Mais je sais pas.
Espérons que ça sera pas le cas.
C'est ça.
Bah écoute. On regardera en tout cas. Je vais essayer, si je retrouve la recette, je te l'enverrai. Merci d'être intervenu sur le podcast. Déjà parce que tu as été franchement très détaillé dans ton témoignage et je sais que c'est pas forcément toujours facile de raconter son histoire. Donc déjà merci pour ça. Ensuite, merci d'avoir bien voulu répondre à mes questions parce que j'ai voulu creuser un petit peu plus. Sur ce que tu veux.
Merci à toi.
Et surtout, bah, du coup, merci de me permettre en fait, de mettre ce témoignage en ligne pour que potentiellement d'autres femmes puissent en entendre parler, comprendre que peut-être que ce qu'elles vivent aujourd'hui pourrait être de l'endométriose, parce qu'encore une fois, on n'en parle pas assez, même si ça commence à prendre un peu plus de place, je pense, dans la conversation, on va dire, sur la santé. Et que bah, peut-être que pour celles qui, contrairement à toi, n'ont pas été diagnostiquées aussi tard dans le développement de leur maladie, peut-être que bah, du coup, les pratiques que tu as eues, donc cette première approche un peu anti-inflammatoire sera une voie intéressante. Et peut-être que du coup, les pratiques comme la cétogenèse ou les alimentations faibles en glucides seront aussi une manière de... Après, je sais que c'est un impact sur les symptômes, mais peut-être même juste ralentir le développement de la maladie. Enfin, après tout, si tu stabilises tes niveaux hormonaux dans une maladie qui est principalement liée à un excédent d'hormones, peut-être que ça peut jouer dans la balance, donc dans son développement. Donc on peut.
Tout à fait.
Voilà. Donc c'est une piste à explorer. Je pense que c'est du coup. J'espère que celles qui découvrent ça aujourd'hui prendront au moins la peine de se renseigner un petit peu. Parce que moi, je voulais savoir si c'était quelque chose qui était pertinent et j'ai fait mes propres recherches. Et j'ai trouvé pas mal de témoignages qui disaient que oui. D'autres qui disaient qu'elles avaient essayé, finalement, elles n'avaient pas trouvé la différence. Et je pense que ça dépend aussi des traitements que tu es en train de prendre, de ta situation vis-à-vis de la maladie. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs, je pense, qui rentrent en compte. Mais globalement, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a des femmes qui sont passées par là et qui ont dit écoute, ça ne m'a pas soigné, ça ne m'a pas guéri, tu vois, ces alimentations. Mais par contre, la pire part de la maladie, c'est la douleur. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et que ce soit du coup cette pratique anti-inflammatoire ou les pratiques cétogènes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu la même chose en fait. Dans le sens où la cétose, en fait, est également une énorme réduction de l'inflammation. Et certaines pratiques qui sont catégorisées comme de la cétose, et je pense par exemple à ce qu'ils appellent le banting, qui vient d'Afrique du Sud, qui est une pratique vraiment anti-inflammatoire, c'est le même genre d'approche. Sauf qu'ensuite, il y a des désaccords sur ce qui est inflammatoire. Par exemple, d'un côté, tu vas avoir la viande qui va être décrite comme inflammatoire, et de l'autre côté, la viande qui va être décrite comme pas du tout inflammatoire. Donc, tu as vraiment deux écoles de pensée. Hein. Et ça, c'est bon, tu essayes et tu vois. Hein, je dirais pas la peine d'aller lire 60 études. Tu testes, ça marche, ça marche pas. Voilà, c'est tout. Donc voilà. En tout cas, merci pour ton témoignage. Ça permettra, je pense, de diffuser un petit peu plus ça. J'espère du coup qu'on aura pu peut-être aider quelqu'un dans sa démarche.
Mais merci à toi, ça m'a fait très plaisir et j'espère aussi qu'on aura pu aider quelqu'un qui se pose des questions.
Merci Anaïs.
Vous êtes arrivé à la fin de l'épisode, merci d'avoir écouté. Ça vous a plu ? Si vous voulez soutenir le serment d'Hippocrite, il y a trois choses à faire. Laissez un commentaire sur Apple Podcast avec l'iPhone de vos amis. Partagez le podcast autour de vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Lorsque l'on contacte des invités, le nombre de notes et de followers joue beaucoup pour les convaincre de prendre le temps de venir raconter leur histoire. Donc merci infiniment à vous qui y contribuez. À bientôt.